Bonsoir. Qui parle sur les programmes d'histoire? Comment faire pour faire comprendre l'écart, car il y en a un souvent, qui existe entre ces programmes écrits, pensés, conçus? On a vu combien ils étaient complexes à concevoir dans les précédentes tables rondes, et les cours tels qu'ils sont faits chaque jour en classe. De l'histoire programmée à l'histoire enseignée, voici donc le thème de cette troisième table ronde qui va s'attacher à pousser non pas à ouvrir non pas les portes-fenêtres à la mondialisation, comme on le disait dans la table ronde précédente, mais tout simplement à mesurer la distance entre l'esprit des programmes et l'expérience de classe, à entrer timidement, tranquillement, en poussant la porte à l'intérieur de ces classes et de ce qui s'y dit, ce qui s'y fait. Nous le ferons en compagnie de Yannis Roder. Il est professeur d'histoire-géographie au collège de Jeter de Saint-Denis, auteur du tableau noir La défaite de l'école en 2008, et un des contributeurs des Territoires perdus de la République, qui dénonçait il y a quelques années, qui vient d'être republié en poche, les difficultés qu'avaient les procédeurs et les professeurs à enseigner dans les écoles, dans les collèges et les lycées de certains quartiers. Vous êtes également formateur pour les enseignants sur le génocide des Juifs au mémorial de la Shoah. Il faut le rappeler. Jean-Marc Fevret est avec nous également. Il est conseil de gestion de l'Association des professeurs d'histoire-géographie, professeur d'histoire-géographie en lycée et également en master de Sciences Po à Paris-Est, et spécialiste entre autres du Liban, auteur du Liban au tournant 1948-1972 dans l'excellente maison d'édition qu'est Göttner. C'était en 2011. Bruno Modica est avec nous, il est à côté de Jean-Marc Fevret, il est professeur d'histoire-géographie, on l'a dit, à Béziers, et il est président de l'association Les Clionautes. Véronique Servat est à côté de moi, elle est professeure d'histoire-géographie au collège Paul-Éluard de Montreuil, membre du collectif Aggiornamento, et un des auteurs du blog HistGéo Blog, un blog dans lequel vous travaillez entre autres sur une histoire que nous partageons, vous et moi, par l'intermédiaire de nos tweets, à savoir l'histoire du rock, de la pop et de la musique qu'on appelle également rap ou hip-hop. Emmanuel Picard est à côté de vous. Vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'École normale supérieure de Lyon. Et vous êtes co-auteur, entre autres, de la fabrique scolaire de l'histoire et spécialiste, justement, de la question générale de l'enseignement de l'histoire. Et nous avons également avec nous, il est tout juste à côté de moi, Dominique Borne. Il est historien, auteur récent de « Quelle histoire pour la France ?» chez Gallimard, dans lequel vous avez plaidé, Dominique Borne, pour une histoire de France, on l'a entendu dans le débat de ce matin, mêlée à une histoire de l'Europe et du monde, dans laquelle vous incitez chacun à inventer son histoire de France, pourvu de rester en dialogue permanent avec l'autre. Voilà donc notre discussion porte sur cette question de la différence entre histoire programmée, pourrait-on dire, et histoire enseignée. On a l'impression parfois que dans les débats publics, les éditorialistes, ceux qui prennent la parole, le font souvent à partir de l'énoncé du programme, parfois de la lecture rapide des manuels qui sont tirés de ce programme, mais qu'ils ne poussent pas justement à la porte des classes pour aller voir ce qui s'y passe. C'est quoi cet écart entre l'un et l'autre, entre ce qui se décide au Conseil supérieur des programmes ou au ministère, et puis ce qui se passe tous les jours dans les classes? Qui veut intervenir en premier? Dominique Borne.
L'écart est différent, je crois, dans le primaire et en collège. Dans le primaire, l'expérience que j'en ai est que on ne lit pas toujours les programmes dans le primaire et que les enseignants du primaire ne savent pas toujours quel est le programme. En plus, au primaire, selon les classes et selon les moyens de la commune, les manuels sont renouvelés ou ne sont pas renouvelés. Si bien qu'on peut tirer des manuels qui ont 15-20 ans et travailler avec des manuels qui ont 15-20 ans, donc avec un programme bien antérieur. Donc le programme en primaire ne joue pas le même rôle, me semble-t-il, qu'en collège. En collège, et c'est le problème avec un programme bref, et je suis tout à fait d'accord avec l'idée de laisser davantage de liberté aux enseignants, qui me va tout à fait, sauf que ça pose un problème, c'est que le programme va être développé, non pas librement par les enseignants, mais va être développé par les manuels. Et en collège, c'est ce qui va se passer. C'est les manuels qui vont interpréter le programme.
Et c'est pas toujours le cas?
Oui, mais plus le programme est bref, plus la liberté d'interprétation est grande. On a un vrai problème avec les manuels. Naguère, j'ai présidé un rapport général sur les manuels scolaires, 97, 18, jusqu'à comme ça, moi je trouve, je continue à le penser, tout à fait scandaleux que les manuels aient une liberté absolument complète. On peut dire absolument ce qu'on veut dans les manuels. Il n'y a aucun contrôle, même pas un cahier des charges sur les manuels. On a un vrai problème.
Hein. S'agit pas. Et pourquoi de... c'est un problème tout compte fait? C'est une capacité d'interprétation.
Parce que je vous dis pourquoi. Parce que on avait toutes disciplines confondues. On a mesuré dans ce rapport d'inspection générale que les manuels qui marchaient le mieux quand il y avait un changement de programme étaient les manuels qui ressemblaient à l'ancien programme. Parce qu'ils étaient davantage pris par les enseignants. C'est un phénomène extrêmement simple. Hein. Donc ça amortit. Et il est extrêmement difficile...
De faire passer des idées neuves, vous voulez dire ?
Il est extrêmement difficile de passer des idées neuves parce que les enseignants sont supposés, je dis supposés, par les auteurs de manuels ou par les maisons d'édition, être conservateurs et donc être toujours à courir après le programme précédent. Vous savez bien, le phénomène des programmes est très classique. On tire à boulet rouge sur les programmes, sauf quand on les change... Et à ce moment-là, on les encense. Hein. J'ai connu moi-même ce phénomène extraordinairement classique.
Hein. Oui, c'est-à-dire que le programme ancien est toujours meilleur que le programme qu'on veut inventer.
Le programme ancien est toujours meilleur, même si on l'a désingué dans le programme précédent.
Je vous redonnerai la parole ensuite. Évidemment, on va faire tourner rapidement la parole. Jean-Marc Fevret.
Oui, simplement, je pense que c'est vrai qu'il y a ce premier décalage dans l'application, mais qui est d'autant plus étonnant quand on regarde ces projets pour ces nouveaux programmes, puisqu'il y a eu un vif débat qui s'est engagé dans l'opinion publique. Mais quand on regarde de près, le moins qu'on puisse dire, c'est que, en fait, c'est un peu surprenant, parce que si quelques libellés ont changé, les contenus, la plus grande part des contenus réels, eux, n'ont pas changé. Ils sont à peu près identiques.
C'est ce que je disais tout à l'heure dans la table de rotation.
Je crois que l'explication est ailleurs. Je crois que l'explication est ailleurs, dans cet écart dont vous parlez. Je crois que ce matin, bien écouté, on a tous écouté Pierre Nora, et qui parlait de deux camps. Je suis pas sûr qu'il y ait deux camps. En revanche, je crois qu'il y a deux approches. Et ces deux approches, on les retrouve à plusieurs niveaux. La première distorsion, elle est entre une approche de la liberté pédagogique qui est comprise en termes de contenu. Première chose, et on nous dit là qu'il y a une grande liberté pédagogique. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Et puis, d'autres conçoivent la liberté pédagogique d'une autre façon, c'est-à-dire par rapport à la mise en œuvre. Là, on n'est plus dans les contenus. On est vraiment dans la mise en œuvre. Et je crois que déjà, on est sur deux registres différents, souvent de choses différentes.
Vous penchez plutôt pourquoi ? Pour la liberté pédagogique en termes de contenu ou en termes de mise en œuvre sur ce point, Jean-Marc Fevret?
Alors, là, je vais être obligé de développer.
Allez-y, un peu.
Je vais être obligé de développer. Bon, nous avons mené une série d'enquêtes, elles sont en cours à la PHG, et ce qui nous remonte à l'heure actuelle du terrain est quand même montre un certain nombre de problèmes sur les libellés. Et en particulier, on y revient une nouvelle fois, sur cette question des sujets ou sous-thèmes qui sont obligatoires et de ceux qui seraient, on va dire, optionnels, suivant l'expression qui a été retenue dans le texte de projet, au choix de l'enseignant. Alors, de ce point de vue-là, on a vraiment des problèmes en termes de choix, d'agencement, de mise en œuvre de ces nouveaux programmes, même s'il y a des choses qui sont tout à fait intéressantes. Alors là, je peux un peu développer dans ce que nous avons reçu, nous, du terrain. Le fait que les enchaînements chronologiques soient respectés, en particulier dans le cycle 4, est extrêmement bien apprécié, reçu, rassurant, notamment après l'expérience récente de ce qui s'est passé en première dans les programmes qui ont été réaménagés en 2013. Bon, alors ça, c'est bien reçu. En revanche, la différenciation donc entre ces thèmes, ces sous-thèmes obligatoires en gras sur le texte du CSP et des thèmes dont le traitement est laissé au choix de l'enseignant, c'est l'expression utilisée, suscite au mieux un flottement, au pire un agacement réel. On attend pourtant quelque chose de plus précis.
Pourtant, on donne la liberté, on dit vous avez le droit de choisir, on pourrait se dire c'est formidable dans le coup quand on est un enseignant.
Je crois que ce qui remonte, là je me fais simplement l'écho d'un certain nombre de réactions et qui sont majoritaires dans ce que nous recueillons jusqu'à maintenant. On attend de ce côté-là un cadrage plus fort. En revanche, sur la mise en œuvre, je crois que les enseignants attendent une confiance beaucoup plus forte dans leur travail. Alors c'est vrai qu'un enseignant qui commence doit être encadré, formé, beaucoup plus, et les enseignants, par la suite, plus âgés, ne sont pas laissés libres dans la nature, c'est certain. Alors, je voudrais vous donner un certain nombre de choses et d'éléments, par exemple. Ainsi, dans le thème 3 de 5e, de nombreux enseignants considèrent le sujet obligatoire, le sous-thème obligatoire sur l'émergence du roi absolu, moins important que le sous-thème au choix sur le monde en 1500, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. La relativisation actuelle, la notion d'absolutisme par les historiens, combinée à l'intérêt récent pour l'histoire globalisée, clonactée, on en a parlé dans la table ronde précédente, semble jouer dans ce sens. Ce n'est qu'un cas parmi d'autres, mais qui est très révélateur d'un risque, celui de faire perdre son unité à notre enseignement républicain. Il s'agit de ça. La mise en œuvre, c'est autre chose, encore une fois, et c'est là que la liberté pédagogique doit s'exercer. Alors, la part de géométrie variable paraît trop forte. Je donne un ou deux autres exemples. Pour rester en cinquième, le thème 1 est le plus souvent bien reçu par les collègues, mais le thème 2 apparaît déséquilibré dans ses approches. Il est évident qu'en parallèle de l'islam qui est dans le thème 1, il devrait y avoir la chrétienté, pas en optionnel ou au choix de l'enseignement. Le sujet portant là-dessus dans le thème 2 étant une société rurale encadrée par l'Église, qui semble souvent, je cite, « artificielle pour beaucoup ». Alors là, où est la raison? C'est ça qu'il faut chercher. La raison en est pour que nous, c'est-à-dire les femmes et les hommes du XXIe siècle, nous percevons l'islam et le christianisme comme des religions. Mais ce sont aussi des cultures, deux civilisations dans lesquelles le fait religieux est central, mais ne suffit pas à tout expliquer. Donc, c'est d'ailleurs bien ainsi qu'est conçu le sous-thème sur l'islam qui s'intitule « L'islam, début, expansion, société, culture ». Là, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus, beaucoup plus cohérent.
Merci de cette première intervention. Emmanuel Picard voulait intervenir. Je donnerai ensuite la parole aux autres. Emmanuel Picard, un petit mot pour commencer.
Alors, je voulais d'abord préciser d'où je parle, puisque je ne suis pas enseignante dans le secondaire. Je l'ai été il y a un certain temps, je ne le suis plus. Donc il m'en reste des souvenirs qui ont été extrêmement formateurs sur justement comment est-ce qu'on transmet de l'histoire. Mais il est évident que je ne parle pas comme une praticienne aujourd'hui, mais plutôt comme quelqu'un qui regarde et qui réfléchit aux pratiques des autres. Alors ce qui me fascine, c'est effectivement cette question que Emmanuel Laurentin vous a reposée, qui est pourquoi cet agacement en fait devant la liberté laissée par ces programmes, pourquoi cette réaction, alors que moi qui travaille sur l'histoire du corps enseignant, je suis quand même amenée à travailler sur une profession intellectuelle. Une profession intellectuelle qui, même en sociologie des professions, se caractérise par le fait qu'elle a une responsabilité quant à la mise en œuvre de son activité. Et à partir de ce moment-là, elle est donc munie des éléments, des informations, elle est informée de façon à pouvoir faire face à une demande, même si la demande semble de nature imprécise. Alors la demande imprécise des programmes, je veux bien l'entendre par rapport à un public, enfin un espace public où on ne sait pas forcément ce qu'on enseigne dans les salles de classe, mais pour des praticiens, des professionnels que sont les enseignants, je pense que quand on dit l'absolutisme par exemple, on voit bien à quoi ça renvoie en fait. C'est-à-dire qu'on a tous reçu des formations qui en plus en histoire sont relativement stabilisées, on va dire, pour ne pas utiliser un terme plus dur.
Alors, c'était quoi le terme plus dur?
C'était peut-être ossifié parfois.
Ouais, d'accord.
Voilà. Par contre, et là je rejoins ce que Monsieur Born disait sur les manuels, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus être irénique. C'est-à-dire qu'on est face à une profession qui est une profession d'intellectuel, qui a donc des responsabilités. Le fait est que l'historiographie se transforme. Il y a des nouveaux travaux, des nouvelles approches. Que les programmes peuvent être perturbants. C'est-à-dire, je pense aux discussions qu'il y avait eu sur les anciens programmes de collège sur l'Inde des Gupta, par exemple. Mmh. Moi, personnellement, je n'ai jamais appris dans ma formation quoi que ce soit sur l'Inde des Gupta. Et donc, ça aurait été un coup d'entrée, en fait, réel. Bon. Quand il y a un coup d'entrée comme ça, il y a deux solutions. La solution commercialement intéressante pour un certain nombre d'éditeurs et de facilités est de se référer à des manuels qui ont été commandés en partie à des enseignants du secondaire, du supérieur et qui vont d'une certaine façon fixer la doxa. Bon. Et c'est vrai que dans la fabrique scolaire de l'histoire, on ne s'était plus à publier deux ou trois textes relatifs à une analyse de la façon dont les manuels traitaient des questions. Et on sait tous qu'il y a des contraintes en plus en termes de publication. Par exemple, le choix des documents est limité par le fait qu'il faut des documents libres de droit, donc on ne peut pas faire n'importe quoi, etc. Bon, donc les manuels sont un outil que moi je trouve assez complexe et assez pervers. Par exemple, j'interdis formellement à mes étudiants de maîtrise, de master, de travailler sur les représentations de ceux-ci dans les manuels scolaires. Voilà, pour moi c'est un sujet.
Comme sujet, vous voulez dire?
Ouais, comme sujet de recherche.
Et pourquoi?
Alors je leur interdis, sauf s'ils sont prêts à faire.
Et c'est une profession intellectuelle qui a toute la liberté normalement.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que je leur interdis au sens où je leur impose, s'ils sont vraiment intéressés par ça, de réfléchir à qui sont les auteurs des manuels, c'est-à-dire d'où ils parlent, quelle est leur formation, quels sont les réseaux, et quels sont aussi les réseaux de l'édition commerciale et les logiques qui se construisent en lien. Voilà. Alors du coup, je vais être très brève, moi ce qui me semble l'autre option qui est beaucoup plus coûteuse mais qui est beaucoup plus intéressante, et qui moi, à titre de professionnel de l'enseignement m'intéresse, c'est la formation continue. Et la formation continue me semble être quelque chose qu'on a laissé de côté. Or, c'est là que se situe le véritable outil qui permet à une profession intellectuelle de continuer à pouvoir prétendre assumer ses responsabilités dans la durée et au-delà des transformations.
On s'arrête sur ce point, Emmanuel Picard. Je vais donner la parole à Véronique Servin et à Yanis Roder, tous les deux profs en collège, sur ces questions justement de... Bah, dites-nous tout simplement, enfin, sûrement pas mal de gens dans la salle le savent, puisqu'ils enseignent aussi. C'est quoi cette différence? Y a-t-il tant de différences entre ce que veut la lettre du programme et puis ce qu'on fait, tout compte fait, une fois la porte de la classe fermée? Véronique Servin.
Ça, c'est une très vaste question et je serais bien en peine d'y répondre de façon synthétique parce que je pense que elle se rejoue finalement, le décalage peut se rejouer à chaque heure de cours. Ah oui, véritablement. En fonction de la classe qui est en face de nous, simplement de l'heure à laquelle on fait cours, il y a une recomposition permanente. Ce matin, le mot bricolage a été employé à plusieurs reprises et c'est bien de ça dont il s'agit. Alors il est vrai que dans ce qui est transparent dans l'espace public, dans la mesure où la classe est un espace qui est fermé.
Fermé,
et
oui.
Et malgré tout, c'est fermé.
Toute la volonté que j'ai eue d'y faire entrer parfois des micros de façon permanente, longue, pour pouvoir suivre ce qui se passait véritablement dans ces classes, ça a été souvent impossible. Donc voilà, enfin même tout le temps impossible. Donc voilà.
C'est fermé, mais vous le savez, parce que vous y avez participé, Emmanuel Laurentin, le collectif Aggiornamento a souhaité justement ouvrir un temps la classe à des personnes extérieures récemment pour justement dévoiler un petit peu ce qui se joue à l'intérieur de ces quatre murs. Mais il est vrai que dans la mesure où c'est un espace où un enseignant se retrouve face à ses élèves, vu de l'extérieur, la façon pour les gens qui n'y rentrent pas d'y rentrer, ça peut être le manuel, savoir ce dont on parle, ça peut être le programme, bien évidemment, et du coup, les gens qui n'y rentrent pas, très souvent, projettent aussi leur souvenir de l'école à l'intérieur, et à partir de là, ça fait une espèce d'émulsion qui fait que, comme le disait l'un de vos intervenants à la Fabrique de l'Histoire il n'y a pas si longtemps, tout le monde se croit autorisé à donner son avis sur ce qu'on enseigne dans les classes.
C'est aussi vrai pour l'équipe nationale de foot.
Voilà, exactement, comme sur la composition de l'équipe nationale de foot. J'en profite pour revenir sur la question des programmes et des choix. Moi, je tiens à alerter sur le risque qui me semble important aujourd'hui de revenir sur ce système des choix qui nous est proposé, parce que si les programmes tels qu'ils sont écrits aujourd'hui, les questions au choix sont mises à traitement obligatoire, on revient à la situation actuelle et autant il y a très peu d'accord dans la profession sur ce que doivent être les programmes, sur ce que doivent être les contenus, autant il y a un point de consensus général dans la profession, c'est que les programmes sont trop lourds à enseigner. Et donc les choix, c'est un moyen de les rendre, d'améliorer leur faisabilité.
Yanis Roder et puis Bruno Bonica qui n'est toujours pas intervenu et ce sera la première fin de premier tour de table de cette table ronde.
Bien, merci. Le titre de notre table ronde c'est donc de l'histoire programmée à l'histoire enseignée. Moi je vais vous parler de ce que je connais au quotidien, c'est-à-dire de l'histoire enseignée. Et l'histoire enseignée, figurez-vous qu'elle s'enseigne à des gens, ça s'appelle des élèves, et que ces élèves, la question qui se pose, c'est la première chose, deux choses je dirais. Ce qui est faisable, en réalité.
Tout n'est pas faisable.
Je vais vous dire pourquoi. Ce qui est faisable, c'est-à-dire ce que l'on peut faire en classe. Et comment on peut le faire? Parce que ces programmes s'inscrivent dans une, pour nous, au quotidien, s'inscrivent dans une réalité quotidienne. Et je vois deux écueils principaux, et je vais rejoindre ma collègue sur l'un des deux. Je vois deux écueils principaux à ce passage qui serait automatique de l'histoire programmée à l'histoire enseignée. Et le premier, c'est la grande hétérogénéité de nos élèves. Avec une partie... Alors moi, j'enseigne à Saint-Denis, ça fait 17 ans que j'y suis. Et une partie de mes élèves est en grande souffrance linguistique, en grande souffrance quotidienne, parce qu'ils se battent avec un vocabulaire extrêmement réduit, qu'ils ne sont pas capables, malheureusement, et c'est une vraie souffrance, de comprendre certains textes que nous étudions, que je leur demande d'étudier, de travailler en groupe. Eh bien, en groupe, parfois, ça ne fonctionne pas, parce qu'un discours de Clémenceau à la législative de 1876, il n'est pas compris. Donc, on est obligé, le professeur est obligé de passer derrière, et finalement, de traduire du français au français. Alors, attention, non pas parce que ces élèves seraient issus d'étrangers, non, ça n'a rien à voir. Et là, je parle de tous les élèves, en sachant que dans chaque groupe classe, nous avons une partie de nos élèves qui sont en vraie détresse linguistique, et peu importe d'où ils viennent. Le deuxième écueil, et les deux sont liés en réalité, et c'est là où je rejoins ma collègue, c'est que dans les programmes actuels, nous passons notre temps à courir derrière le temps. Alors, moi, je crois une chose, c'est que l'enseignement de l'histoire, et c'est peut-être pour ça que je suis devenu prof d'histoire, permet de donner du sens, et ça a été dit tout à l'heure, notamment de donner du sens à ce que nous vivons, et permettre à ces élèves de donner du sens à ce qu'ils vivent, à l'endroit où ils vivent, de la manière dont ils le vivent, eh bien, je pense, mais... voilà, j'espère ne pas être le seul à le penser, mais je ne crois pas. Je pense qu'il faut prendre du temps. Prendre du temps pour donner du sens à l'enseignement. Faire de l'histoire, c'est faire travailler les élèves sur le document. C'est faire un retour au document. C'est les faire travailler sur l'écrit, la production écrite. Mais faire de l'histoire aussi, me semble-t-il, c'est écrire, mais aussi réécrire. Et tout cela demande du temps. Quand on sait qu'aujourd'hui, en classe de 3e, nous avons 2 heures dans les programmes, pour enseigner l'histoire du nazisme, qu'est-ce que vous voulez que nous comprenions à l'histoire du nazisme en 2 heures? Enfin, c'est-à-dire 2 heures, c'est 2 fois 55 minutes, en sachant qu'il y a 10 ou 15 minutes, excusez-moi de le dire comme ça, de bordel, on est à 1h30, en fait, de cours sur le nazisme. Les élèves qui vont en lycée pro ne revoient jamais le nazisme derrière. Qu'est-ce qu'on a appris en 1h30?
Merci de cette première intervention. Yannis Roder, Bruno Modica, sur toujours cette même question. Que se passe-t-il derrière les murs de la classe? En gros, comment y a-t-il un écart? Et c'est cet écart sur lequel nous travaillons autour de cette table.
Je dirais que, a priori, tout ce qui a été dit jusqu'à présent par mes collègues, je ne dirais pas quelque chose de fondamentalement différent. La question qui se pose toujours, c'est le temps que l'on souhaite donner à ceux qui, en fonction de notre formation d'historien géographe, nous paraît essentiel pour donner une lisibilité au monde dans lequel nos élèves vont évoluer. Et de ce point de vue-là, je vais commencer de façon positive et constructive. J'ai trouvé que, a priori, la notion de liberté pédagogique était extrêmement séduisante. L'idée qu'on puisse mettre l'accent sur tel ou tel aspect en jouant effectivement sur le rapport au temps, parce qu'on ne peut pas faire autrement, me paraissait une bonne chose. Et puis, au bout de quelques décennies, 3 décennies et un peu plus maintenant d'expérience, on sait que bien souvent, certaines réformes qui ont abouti à petit rogner nos horaires, ont eu des effets négatifs. Et effectivement, je rejoins mon collègue en disant qu'effectivement, si on doit rentrer dans un cadre qui est celui de 1h30 pour le nazisme, on se demande ce qu'il en reste. Et ce n'est pas dénué de conséquences, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc, là où je suis extrêmement réservé, par contre, c'est sur cette question des enseignements pratiques interdisciplinaires,
ouais,
qui, effectivement, à un moment donné, auraient pu être quelque chose de formidable. Mais quand on réfléchit...
Rappelez à ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas spécialistes, quelle est la place que tiennent ces
Alors, merci Emmanuel. Merci Emmanuel, c'est vrai qu'on a souvent tendance à rester, je dirais comme toute institution, à rester dans notre entre-soi et dans notre jargon. Les enseignements pratiques interdisciplinaires sont censés représenter une marge horaire de 20% de la dotation globale horaire, ce qu'on appelle dans le jargon le sigle la DGH, qui est négociée au sein de l'établissement dans des conditions sur lesquelles plusieurs syndicats sont d'ailleurs intervenus. Nous sommes bien d'accord, et j'ai été très attentif à ce qui a été dit, permettant d'élaborer un certain nombre de projets. Alors, soyons clairs.
Des projets transversaux.
Projets transversaux, transdisciplinaires, interdisciplinaires, voilà. Et pratiques. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, pratiques, appliquées, par exemple, à l'enseignement du nazisme. J'ai bien quelques idées, mais ça me poserait des questions. Alors, bon, juste pour terminer, sur ce point, la réalité, c'est quoi? c'est que depuis 1973, lorsque les 10% ont été instaurés, j'étais pour ma part élève de seconde, des dispositifs transdisciplinaires ont été mis en place. Moi, je mets au défi quiconque, de sortir un bilan de tous ces dispositifs successifs, que ce soit les itinéraires de découverte, les TPE, etc., en termes de réussite des élèves et en termes de valeur ajoutée. Donc, tant qu'il n'y aura pas de bilan qui aura été dressé par rapport à un dispositif de plus qui se rajoute à d'autres, c'est la dernière innovation dans laquelle on doit trouver un sigle, j'avoue que je resterai extrêmement circonspect. Donc oui à la liberté pédagogique qui nous est donnée dès lors qu'on saura effectivement la négocier, et je conçois l'enquête qu'a évoqué mon collègue Le Montre, je conçois que ça puisse effectivement créer un certain sentiment, la formule a été malheureusement utilisée dans d'autres circonstances, que cela puisse créer un sentiment d'insécurité, on va dire, c'est comme cela que ça peut être ressenti. Mais par contre, dès lors que, je crois qu'il faut être à un moment donné, se poser la question, les professeurs d'histoire et de géographie peuvent faire tous les programmes que l'on veut, à condition qu'ils aient du temps pour le faire. Et qu'au bout d'un moment, la question des volumes horaires se pose. Donc, sans aller jusqu'à un choc des corporatismes, je pense que toutes les associations disciplinaires seront d'accord pour dire qu'à un moment donné, si on veut considérer que l'enseignement de l'histoire et de la géographie joue un rôle fondamental dans la formation du citoyen, il faut qu'effectivement, les volumes horaires arrêtent d'être rognés et qu'à ce moment-là, les EPI, les enseignements pratiques interdisciplinaires, ne servent pas de dispositif de diminution des volumes avec effectivement des logiques qui seraient peut-être des logiques comptables, ce qui a été évoqué tout à l'heure.
Ne serait-ce qu'une gestion de la pénurie, comme on a souvent dit, Dominique Borne
Je ne répondrai pas à gestion de la pénurie, parce que je ne suis pas assez au courant du ministère pour le dire. Je voudrais répondre sur interdisciplinaire, pluridisciplinaire. Moi, ce qui me frappe, je fais écho à ce qu'on a dit déjà tout à l'heure, c'est que la réforme semble fondée sur l'interdisciplinaire, et on nous propose des programmes où à aucun moment le programme d'histoire rencontre celui de géographie, où à aucun moment le programme d'histoire ne rencontre celui d'histoire des arts. Et donc, si c'est pas rencontré dans les programmes, ça ne sera jamais fait. Il faut enfin.
Ah, j'entends des gens qui disent c'est faux. Alors continuez, Dominique.
Non, c'est pas faux. Non, c'est pas faux. Ah. C'est dans les intentions. Il y a écrit de manière pieuse en début des programmes qu'il faut que l'histoire et la géographie se rencontrent, mais il n'y a aucun moment dans les programmes où elles se rencontrent. Je regrette. J'ai lu attentivement les programmes et je peux. Alors, je vais prendre un exemple. Quand en sixième, il s'agit de faire les civilisations de la Méditerranée, en géographie, c'est habiter les grandes métropoles. Hein. Alors, c'est pas très commode. Hein. Pourquoi on n'aurait pas mis habiter la Méditerranée, hein. Par exemple, hein, habiter en Méditerranée. Il y a des moyens de rencontre. Et je reprends, notre collègue Grataloup l'a dit tout à l'heure, le mot territoire manque cruellement alors qu'il s'agit d'enseignants d'histoire et de géographie. Le mot territoire est là où se rencontrent l'histoire et la géographie autour du mot territoire. Donc c'est un mot essentiel. Alors, je me méfie, hein, mais je ne crois pas l'avoir lu, je vais être interrogatif, je ne crois pas l'avoir lu tout au long des programmes, ce mot territoire. C'est quand même un peu étrange, alors que là, il rencontre. Même chose sur l'éducation civique et morale. Moi, je pense qu'il y a une manière civique et morale d'enseigner l'histoire, la géographie, les mathématiques, les SVT, etc. Mais je ne crois pas à l'efficacité d'un enseignement spécifique. Donc il s'agit d'intégrer. De même, il y a l'enseignement d'histoire des arts. Pourquoi ? Alors, suggestion. Programme cycle 3. Il y a une succession de rois. Et pourquoi pas une succession de rois ? Et Louis IX, et puis François Ier, Louis XIV. Pourquoi on ne mettrait pas des œuvres accolées à ces rois ? C'est très simple ce que je dis. Hein. Avec la Sainte-Chapelle, avec Louis IX, Léonard de Vinci avec François Ier ou Chambord, et puis Versailles avec Louis XIV.
J'ai l'impression qu'une partie du CSP commence à bouillir dans la salle. On va leur donner la parole tout à l'heure pour vous répondre.
Écrit, excusez-moi, mais tout ça n'est pas écrit. Hein.
Jean-Marc Février et tous les autres autour de cette table. Jean-Marc Février.
Je pense que les mots ne sont pas indifférents, là, parce que nous avons plusieurs mots là qui sont en train de s'entrechoquer. Vous en connaissez la différence. Mais le public, l'opinion, n'en connaît pas les différences la plupart du temps. C'est transversalité, c'est multidisciplinarité, c'est pluridisciplinarité. Et là, je vais à nouveau parler un peu en faisant l'écho de ce que nous entendons et de nos enquêtes, de ce qui est en cours. C'est le fait que les enseignants sont favorables, pour ce que nous entendons en tout cas, à la pluridisciplinarité. Et dans les mises en œuvre, dans quelque chose qui correspond à des disciplines sœurs ou qui s'intègrent à un même ensemble, qu'on parle d'histoire de l'art, qu'on parle de géographie, qu'on parle d'histoire, etc., ça peut se comprendre, ça peut s'entendre. Maintenant, la transversalité, surtout si elle est dans un flottement, parce que c'est comme ça que c'est perçu, est-ce que ça sera le cas, je n'en sais rien, mais qui correspond à 20% de la dotation, c'est beaucoup moins évident pour les enseignants, et ça peut être une perte de temps. Quant à la pluridisciplinarité, ce que disent souvent les enseignants, c'est qu'ils la mettent en œuvre eux-mêmes. Ils la mettent en œuvre, ils la mettent en œuvre avec leurs collègues de lettres souvent, et ils le font sans avoir forcément besoin. Et là, on est dans quelque chose de profondément français, de réglementation et d'instruction officielle, et d'un cadre à tout prix qui peut introduire de la rigidité, comme il peut inciter d'ailleurs à faire des choses.
Mais c'est quand même extrêmement intéressant, parce que cette discussion tourne autour de la question, non pas de la liberté ou du manque de liberté de l'enseignant, mais est-ce qu'il y a besoin d'un cadre ou est-ce qu'il n'y a pas besoin de cadre? Quelle est la grandeur de ce cadre, etc.? Est-ce qu'on peut s'y mouvoir relativement librement ou pas? Et on voit bien que c'est autour de cette question-là que se nouent les discussions, Jean-Marc Février.
Oui, parce qu'il y a un certain nombre de zones qui restent à préciser. C'est ce qui a été dit depuis ce matin, et on les retrouve dans les trois tables rondes, d'ailleurs. C'est intéressant. Bon, je ne vais pas vous reparler, et puis vous avez compris ce dont je me suis fait l'écho, de cette question. Et on peut avoir des avis variables, j'ai bien écouté Emmanuel Picard là-dessus, mais cette question de la part d'enseignement, de sous-thème obligatoire et de sous-thème au choix de l'enseignant. De la même façon, savoir où ce qui se passe dans les EPI, on attend des choses. On a bien compris également que si le 8 avril, on a indiqué un certain nombre de choses, et ces rapports sur le cycle 3 et 4, produit par le CSP. Vous nous avez également dit, Monsieur Lussault, ce matin, que Madame la Ministre également, les choses pouvaient être amendables et modifiables jusqu'à septembre. Donc c'est vrai qu'on attend. Il y a à la fois, c'est ça qui est paradoxal. Il y a ce besoin de liberté pédagogique et de savoir où il s'exprime.
Moi, je sens.
Moi, je
paradoxe
me dis qu'il s'exprime. Il s'exprime. Je crois surtout dans la mise en œuvre, mais pas forcément dans le cadre. Ce qui signifie pas que le cadre doit être pléthorique. C'est ça.
Alors, Véronique Servat, Emmanuel Picard, Yanis Roder, allez-y, chacun votre tour.
Oui, je voulais revenir sur ce que disait Dominique Borne sur le fait de pouvoir faire se rencontrer en fait dans l'écriture des programmes les deux disciplines, voire et des enseignements comme l'histoire des arts. Alors, il me semble que dans ceux qui viennent d'être écrits, l'enseignement d'histoire des arts est très calé sur le rythme du programme d'histoire, mais peut-être que je ne m'y suis pas penchée suffisamment. Cela dit, il me semble quand même qu'il suit ce rythme-là. D'autre part, je trouve l'idée tout à fait séduisante. Après, je me méfie toujours un petit peu de l'idée qu'il faille systématiser une façon d'écrire. Voilà. Je mettrai cette réserve juste pour dire qu'il y a une autre solution aussi qui peut s'ouvrir à nous. Dans l'état actuel de l'écriture des programmes, c'est de proposer aux enseignants d'aller chercher ces rencontres qui ne sont pas tout le temps possibles, mais qui le sont parfois, de leur propre chef. Je pense en particulier au programme de la classe de 3e, qui propose en géographie un thème qui s'appelle « Habiter la France », qui peut se prolonger par l'étude du thème d'histoire, la France des années 60-70, et qui me semble un croisement tout à fait pertinent pour traiter le programme.
Emmanuel Picard et Yanis Roder.
Moi, je voudrais revenir sur deux choses, en fait, un peu en amont, si c'est possible.
De toute façon, on discute, donc on y va. Voilà, quand on discute en reprenant des thèmes un peu anciens, vous pouvez y aller.
Alors, je voudrais revenir sur cette histoire de classe comme espace fermé, que j'avais trouvé extrêmement intéressant, et le problème de l'adaptabilité, du fait qu'il y avait une très grande hétérogénéité des élèves. Vous le faisiez remarquer, et que, en fait, ce qui est extraordinaire avec la situation d'enseignement et qu'on connaît tous, c'est qu'il faut à chaque fois inventer une nouvelle façon de procéder.
Chaque heure, comme le disaient Yanis Roder et Véronique Servat.
Chaque heure, chaque jour, chaque niveau, chaque thème, chaque année, en fait, on est en permanence en train de réinventer, et on sait tous très bien à quel point il y a une sorte de de presque d'instinct au bout d'un certain moment. C'est ça qui fait aussi le plaisir d'être un enseignant qui a de la bouteille, c'est qu'on arrive aussi à pouvoir improviser certaines fois des réponses qui sont plus efficaces que ce qu'on avait pu anticiper de façon très formelle dans son bureau. Et là, je voulais aussi continuer sur ce qui est un peu mon rôle, donc n'étant pas, nous ne pouvons pas vous faire part d'expériences de classe, mais ce qui est un peu mon rôle, qui est de dire que cette expérience de la classe fermée, où Emmanuel Laurentin, vous dites que vous y êtes allé, mais que c'était compliqué. Bon, en fait, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des chercheurs qui vont dans cette classe et qui travaillent dessus. Il y a quand même.
Évidemment.
Il y a quand même des
dispositifs. On en a ici dans cette salle.
Voilà, il y en a dans cette salle. Moi-même, j'appartiens à une institution qui s'appelle l'Institut français de l'éducation, dont une des missions est aussi de travailler sur la pratique enseignante. Et je pense que ce serait là aussi très important peut-être de continuer à développer, à valoriser ces travaux, parce que ce sont des lieux de discussion.
Bien sûr.
Et moi, j'appellerais aussi à la possibilité que le dialogue soit plus nourri avec le corps enseignant en poste et les chercheurs qui sont engagés dans ces recherches et de la diffusion de ces résultats.
Ce que je voulais dire, c'est que pour lever certains fantasmes peut-être de ce qui se passe justement dans les classes, il ne serait peut-être pas inutile que... Je ne dis pas des caméras, des micros, des stylos y entrent, mais c'est vrai que vis-à-vis d'une opinion publique qui nourrit certains fantasmes par rapport à ce qui s'y passe, ça peut être utile d'avoir, un compte-rendu le plus honnête possible, bien évidemment, de ce qui dit.
Voilà. Bon, les procès ne sont pas filmés.
Oui.
Voilà. Et je pense que... c'est pas qu'il s'y passe des choses atroces, c'est qu'il s'y passe une relation qu'on connaît tous, qui est intime.
Non, mais les procès ne sont pas filmés, mais il y a des journalistes qui entrent pour pouvoir en faire le compte-rendu.
Vous-même, je pense, êtes invité à y entrer aussi souvent que vous voulez.
Yannis Roder.
Et moi, si vous permettez, je voudrais revenir sur les EPI dont on dit beaucoup de choses. Alors, je crois que si on parle d'enseignement... Je ne vais pas parler d'EPI, parce que je ne vais me fâcher avec personne. Mais si on parle d'enseignement pluridisciplinaire, vous avez tout à fait raison de dire que ça existe déjà. Ça existe déjà, ça se fait de manière formelle, ça se fait avec les moyens du bord, mais ça se fait. Donc il y a l'enseignement disciplinaire dans l'absolu et il y a les EPI. Voilà, les EPI, à titre personnel, je le permets ici, voilà, avec les moyens qui nous seront alloués, voilà, il y a une vraie question qui se pose. Maintenant, sur l'enseignement pluridisciplinaire. Moi, j'enseigne dans un établissement sensible, où, et je l'ai déjà dit, excusez-moi de le répéter, excusez-moi de reparler de mes élèves, mais où j'ai une partie des élèves qui sont complètement largués, qui sont perdus, qui sont en vraie souffrance. Voilà. Donc il nous faut, à partir du moment où le choix politique est fait d'amener tous les élèves à la fin de la troisième, il nous faut réfléchir à peut-être enseigner aussi autrement, ce que nous faisons déjà en réalité, pour ces élèves, sans oublier évidemment ceux qui suivent normalement et qui ont une scolarité, on va dire, de type classique. N'oublions jamais que, enfin, excusez-moi de présumer cela, mais je pense que tout le monde ici a été un bon élève et que savoir ce que c'est qu'un mauvais élève, c'est bon, Laurence apparemment pas, mais voilà, je ne savais pas, excuse-moi, mais j'ai donc l'exception qui confirme la règle. Donc, quand même, je pense qu'ici il y a eu beaucoup de bons élèves. Voilà. Donc être un mauvais élève, moi je ne sais pas ce que c'est. Hein. Bon, donc simplement, ces gamins en souffrance, peut-être que de travailler autrement et les enseignements pluridisciplinaires. Pas nécessairement les EPI peuvent, pourquoi pas, ouvrir des perspectives à des gamins qui ont des vrais talents, mais qui ne sont pas des talents qui rentrent dans le cadre scolaire tel qu'il existe. Et je crois qu'il faut s'imaginer ce que c'est que d'être un mauvais élève depuis 10 ans. Et d'en prendre plein la figure depuis 10 ans, parce que l'institution est très dure et l'institution renvoie cela. Donc il y a des choses à faire qui peuvent permettre éventuellement, peut-être, je n'ai pas de
remède miracle. Il n'y a pas l'arsène.
Non, mais non, bien sûr que non. Mais de permettre de révéler des talents qui seraient autres. Voilà.
Bruno Modica.
Oui, pour ce qui concerne les pratiques de classe, parce que je pense que c'est quand même ce qui doit nous renvoyer à l'essentiel. Et je suis très attentif à ce que vient de dire l'interlocuteur précédent, mon collègue en l'occurrence. Je pense que dès lors que des élèves ont des difficultés, et des difficultés majeures, alors bon, je ne vais pas revenir sur mon territoire d'origine, mais il y a des problématiques...
Je rappelle que vous êtes professeur à Béziers.
Il y a des problématiques qui ne sont pas très différentes, je pense, de celles que l'on peut trouver en Seine-Saint-Denis, avec, peut-être le soleil en plus. Bon, la misère est moins dure au soleil, peut-être. On pourrait discuter là-dessus. Je pense que là où il y a un véritable danger, c'est que on a tendance à considérer que ces élèves-là, qui ont de véritables situations de souffrance en ce qui concerne leurs difficultés, notamment linguistiques, leurs difficultés d'intégration, tout simplement, et puis aussi, surtout, les projections concurrentes qu'ils reçoivent. Parce que ces élèves, on se posait la question de faire de l'histoire connectée, il y a une chose qui est évidente, c'est que les élèves le sont aussi. Mais ils ne le sont pas autant que ce que l'on pourrait croire, et ils ne le sont pas forcément de façon très positive. En réalité, ces histoires connectées des élèves, en tout cas cette connexion des élèves, on a l'impression que les élèves, sous prétexte qu'ils sont des « digital natives », soit particulièrement performant dans ce domaine-là en matière d'usage des technologies numériques et des réseaux sociaux, beaucoup moins que ce que l'on pourrait croire. Alors, en ce qui concerne les pratiques, une des démarches que nous avons essayé de mettre en œuvre et que, pour ma part, j'expérimente de façon quotidienne en profitant effectivement des largesses, j'aurais envie de dire des prodigalités, de conseils régionaux et de conseils généraux qui ont mis à disposition des ordinateurs qui, quand ils n'ont pas été revendus sur le Bon Coin ou sur une quelconque plateforme de vente de produits d'occasion, peuvent être aussi utilisés comme de véritables outils de travail. Je crois qu'à un moment donné, c'est là que la spécificité de ce que nous faisons en tant qu'association disciplinaire, nous sommes bien d'accord, mais qui est quand même issue de la galaxie du numérique et des nébuleuses et des balbutiements de l'Internet, c'est de montrer dans une espèce, ce que j'appellerais en faisant... On me reprochera une certaine pédanterie, mais ce qu'on appelle le nœud borroméen, c'est-à-dire ces trois nœuds qui sont indissociables les uns des autres, entre l'anneau disciplinaire et pédagogique, l'anneau numérique et enfin l'anneau territorial et citoyen. Je parlais ce matin d'un ancrage territorial de nos enseignements en ce qui concernait les territoires de proximité. Et là, monsieur le doyen honoraire, Dominique Borne, c'est une plaisanterie entre nous. La notion de territoire, justement, nous avons essayé de l'intégrer dans cette forme de réécriture des programmes et à laquelle nous nous sommes livrés de façon collaborative. C'est aussi peut-être aussi une spécificité, c'est-à-dire l'usage du numérique comme instrument de collaboration et de collaboration. Il y a eu une sorte de reformulation, je ne prétendrai pas à ce que les clionautes réécrivent les programmes, loin de là, mais une sorte de reformulation pour essayer de leur apporter notre intelligibilité à nous, et de façon tout à fait modeste et avec vraiment un esprit, l'esprit constructif qui est le nôtre depuis le début de cette réforme des collèges. Juste 30 secondes, Emmanuel Laurentin, vraiment merci d'avance, parce que je pense que c'est là-dessus que se fait la spécificité de notre engagement.
30 secondes.
C'est dire, voilà, nous utilisons dans la transmission des outils qui permettent de faire passer des contenus, et ces outils permettent d'optimiser, par exemple, dans une certaine mesure, de gagner du temps. Alors, je reviendrai peut-être dans une autre intervention pour expliquer, à ce moment-là, Emmanuel me le permettra, comment ça se fait de façon pratique.
Emmanuel Picard.
Alors, je voudrais justement reprendre la notion de outils et contenu. Parce que je pense qu'il y a aussi quelque chose sur lequel on discute, enfin, on tourne autour, et il y avait cette discussion aussi... le représentant de la PAG a aussi mentionné cette différence, c'est-à-dire qu'est-on censé apprendre aux élèves, et comme le fait remarquer mon voisin, c'est pas toujours simple. Et qu'est-ce qu'il y a au cœur de ces programmes? Il y a des éléments qui permettent la compréhension du monde, c'est-à-dire des compétences qui permettent d'éclairer, de comprendre. Et quand on appelle, moi je sais que quand j'ai enseigné en collège, je trouvais les programmes extrêmement frustrants, parce que comme ils étaient très lourds, j'avais l'impression que je ne permettais rien de faire comprendre. Alors moi, je veux bien enseigner la généalogie des rois de France, pourquoi pas, c'est pas dur, hein, mais je ne vois pas l'intérêt. C'est-à-dire que, franchement, à moins dans un dîner, de vouloir faire un concours ou de vouloir participer à la question pour un champion, ça n'a pas de sens. Par contre, essayer de comprendre la nature du pouvoir, c'est-à-dire qui détient le pouvoir, à quel titre, dans quel contexte, et comment se construit la légitimité, et l'interroger historiquement, c'est-à-dire montrer qu'effectivement, selon les contextes, on a le pouvoir n'a pas exactement la même forme, ne s'exprime pas de la même façon, ne se construit pas, ne se conserve pas ou ne se conquiert pas de la même façon, permet de comprendre le monde d'aujourd'hui. Parce qu'encore une fois, de toute façon, on ne pourra jamais tout savoir. Donc autant donner des armes pour permettre ensuite d'étudier tout ce qu'on veut du passé ou du présent.
Dominique Borne, Yanis Roder, Jean-Marc Février.
Oui, je profite pour sur les pratiques pédagogiques. Il y a un autre mot qui m'a un peu manqué dans les textes, c'est le mot « récit ». un mot qu'on a beaucoup utilisé ce matin. Le mot récit, alors, je suis prudent, hein, il me semble qu'il ne figure pas dans, à aucun moment dans ces textes. Ce qui me semble quand même paradoxal, parce que l'enseignement de l'histoire et de la géographie, d'ailleurs, me semble-t-il, est caractérisé par une forme de récit.
Chaque fois que vous dites quelque chose, Dominique Borne, je sens une petite petit bouillonnement des gens du CSP qui ne sont pas d'accord, parce que eux, ils ont repéré qu'il y avait le mot récit quelque part. Enfin, ils nous diront ça tout à l'heure. Il y est là, voilà. Continuez.
Bon, enfin, globalement, il n'est pas en gros, en gras, bon, peu importe. Hein. Je veux dire simplement que l'originalité de l'enseignement de l'histoire et de la géographie, c'est le récit qui porte en lui sa propre critique. C'est pas un récit pieux. C'est pas un roman national, qu'on comprenne bien dans quel sens je dis récit ici. Mais c'est une pratique pédagogique qui fait qu'on expose un déroulement de faits, hein. C'est comme ça que ça se passe dans une classe quand même, hein. Et en portant sa propre critique directement. Et d'ailleurs, le croisement entre les imaginaires, les croyances, les mythologies et le récit est très fondamental, hein. Moi, j'aime bien le programme, je vais dire des gentillesses sur les programmes, parce que thème 2 en classe de 6e, croyance et récit fondateur dans la Méditerranée antique au premier millénaire avant Jésus-Christ, ça me va tout à fait bien, ça me semble assez remarquable. Hein. Si on y ajoute, par exemple, j'aurais bien aimé qu'on ajoute que...
On dit qu'il y a déjà trop, si vous ajoutez.
Non, mais c'est une illustration, hein. C'est pas un ajout, mais c'est une illustration. 6e siècle, dans deux lieux différents. D'un côté, on écrit les récits de la Bible. De l'autre, sous Pisistrate, on met par écrit l'Iliade et l'Odyssée. Ça se passe en même temps. Et c'est très fondamental pour comprendre ces récits d'origine, cela. Hein. Alors, excusez-moi, mais autre chose à dire, parce que la ministre disait très justement ce matin, elle a parlé de la vérité et les croyances. Et il me semble... Je voudrais insister sur ce point qui me semble absolument fondamental dans la déontologie et l'éthique du métier. Un enseignement d'histoire et de géographie, on enseigne à tous un savoir, et ce savoir est le même pour tous. Et il s'agit de montrer à tous que le savoir est, j'allais dire, le savoir commun. Par ailleurs, chacun a droit d'avoir ses croyances. Et là, c'est une articulation tout à fait essentielle. Et sur les croyances... Je voudrais, on l'a dit à plusieurs reprises, mais je ne quitterai pas la parole avant d'avoir dit ça. Sur les croyances.
C'est une bonne pratique pour garder le micro. Allez-y.
Sur les croyances, il serait essentiel que ne figurent pas seulement les origines de ces croyances. Alors, on a un problème de fond, hein. Parce qu'il y a uniquement, je cite, les débuts du judaïsme, ça figure ainsi, je le sais par cœur le programme, hein, sans regarder. Les débuts du judaïsme. Si le christianisme et puis l'islam, et qu'après ça n'existe plus dans l'histoire, un peu le christianisme, mais le reste ça n'existe plus dans l'histoire.
C'est ce que disait Colette Beaune ce matin dans la première table ronde.
Elle a bien raison, on renforce les fondamentalismes. Et là c'est quelque chose de grave et sur un sujet très important.
Yannis Roder, Jean-Marc Février et puis les autres qui veulent intervenir. Oui.
Écoutez, moi j'entends plein de choses, c'est très bien, c'est très intéressant. En même temps, vous me parliez, chers collègues, de gagner du temps. Moi, je suis pas là pour gagner du temps. Hein. Je suis là pour faire que mes élèves arrivent à construire une pensée structurée, qu'ils arrivent à apprendre des choses, parce qu'une partie de mes élèves n'apprend pas, ne peut pas apprendre, pour des raisons qui m'échappent et des raisons qui sont extérieures, mais ils n'arrivent pas à rentrer dans les apprentissages. Ils sont incapables, pour certains, j'entends, hein, d'être contraints. Voilà, ce sont des questions que nous devons gérer au quotidien, qui sont très compliquées. Alors, moi, voilà, gagner du temps, c'est d'accord, ok, mais bon, soyons très clairs, moi je m'en moque de gagner du temps. J'essaye de faire produire des choses à mes élèves. C'est ça qui me soucie. Et là où je vous rejoins, c'est que cette histoire, à mon sens, elle doit être une histoire politique. Bien sûr, quand on parle d'enseignement de l'histoire, il faut essayer de faire apparaître les grandes césures. Il faut essayer de faire apparaître les grands moments qui sont des moments de bascule, par exemple. Bon, tout cela, ça se travaille. Mais ça peut se travailler, même avec des élèves en grande difficulté, à la condition, excusez-moi d'insister là-dessus, de prendre le temps. Voilà, le fait de courir sans arrêt après le temps nous rend complètement, d'abord, moi je suis plus prof. Voilà, ne pose pas ta question, j'ai pas le temps. C'est ridicule. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Et sinon, parce qu'il faut que je termine mon programme. Je suis un bon fonctionnaire, donc je termine mes programmes. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens face à des élèves qui sont, voilà, qui n'arrivent pas à construire un savoir, qui n'arrivent pas à construire une pensée structurée.
Véronique Servat, qui n'a pas pris la parole depuis longtemps, je donne à monsieur Clapin.
Effectivement, la question du temps, moi, elle m'occupe depuis ce matin en entendant les différents intervenants. On est sur une journée consacrée à l'histoire et le temps, c'est quand même le principal problème du professeur d'histoire-géographie. Je reviens à une question qui a été évoquée ce matin. On est arrivé à une écriture des programmes qui relevait dans les dernières versions, celles qui ont précédé les projets actuels, à quelque chose qui s'approchait quand même des temps modernes de Charlie Chaplin. Mmh. C'est-à-dire que dans l'écriture des programmes, on se retrouvait, nous enseignants, à l'intérieur de nos classes, avec un chronomètre derrière le dos, nous disant « Seconde guerre mondiale, 3 heures, clac. Guerre froide, 2 heures, clac. » Voilà. Alors après, effectivement, je comprends qu'il y a un collègue qui l'a évoqué ce matin, des élèves qui montent au lycée et en classe supérieure se retrouvent avec des difficultés pour faire de l'histoire. Oui, parce que on a une écriture qui est devenue complètement folle.
Et vous voulez dire que ça induit une mauvaise façon d'enseigner, enfin, ça rend plus difficile les capacités d'enseignement.
Pour revenir à votre propos du tout début. Le décalage entre histoire programmée et histoire enseignée, c'est que une fois que le prof s'est saisi de son programme et a regardé le chronomètre, il se pose, il enlève le chronomètre et il réécrit le programme en fonction des élèves qu'il a en face de lui et il le réécrit, je dirais même, toute l'année. Toute l'année, il le réécrit.
Jean-Marc Fébré.
Je ne peux que souscrire à ce que viennent de dire nos deux collègues. Parce que c'est ça le problème de la liberté pédagogique, c'est ça. Alors, je crois que sans théoriser, il faut quand même se demander d'où ça vient et d'où vient l'écart, la distorsion. C'était votre première question, oui, Monsieur Laurentin. Je crois que la première chose, tout à l'heure, Monsieur Borne parlait d'un savoir commun. Oui, oui, oui. Mais et c'est vrai qu'une science, c'est l'enseignement d'une science. Une science, je crois que scientia, hein, c'est un ensemble de connaissances, hein, de choses acquises. Mais notre problème, c'est que nous sommes face à quelque chose qui est tout à fait pléthorique, qui est complètement pléthorique. Et cette volonté, vous avez bien compris que programme après programme, on se trouve dans des situations dans lesquelles chacun, chaque groupe veut rajouter des choses. Ça relève parfois des compétences, des savoir-faire, mais surtout des contenus aussi. On est largement prisonnier de ça. Alors, je voudrais juste vous faire une réflexion là-dessus, faire un parallèle, avoir un regard d'ailleurs. Bon, vous avez compris, je travaille sur le Liban et sur son histoire, et j'ai un peu travaillé sur l'enseignement et les scientifiques et les universitaires au Liban. Bon. Et quand on voit la façon dont fonctionne ce pays et sa société, on est dans le cas inverse. C'est tout à fait étonnant. On est dans le cas inverse, c'est-à-dire qu'il y a des structures...
Ils sont incapables d'écrire une histoire commune, pour l'instant.
Exactement, donc, mais pas uniquement parce qu'ils sont dans une société plurale et un régime consociatif, suivant les expressions retenues et consacrées, mais parce qu'il y a un problème de mémoire orpheline, d'amnésie officielle. Il y a tout un ensemble d'éléments qui font qu'ils sont à l'inverse de ce que nous sommes. C'est vrai. Nous avons une prolifération... la France et son enseignement est historicisé, historique, historiographique. On peut continuer là-dessus et c'est tout notre honneur et notre culture. Et c'est une part de jubilation certainement dans notre société qu'on peut avoir différemment suivant où l'on est et ce qu'on peut recevoir. Mais de l'autre côté, je vous dis, au Liban, on est dans une situation qui est complètement différente. Mais ils arrivent, et ça... Je l'ai vu dans les dernières années, dans le secondaire, on arrive avec des programmes qui ne sont pas vraiment des programmes, on arrive à bricoler, pardon pour l'expression, mais elle va très bien là aussi, on arrive à bricoler des choses qui sont tout à fait remarquables pédagogiquement. Et c'est là que se situe probablement un certain nombre d'éléments de méthode et qui doivent nous faire un peu reculer, penser en termes de contenu, bien sûr, de continuité chronologique, bien sûr, mais qui doivent nous faire prendre un peu de recul et de regarder aussi le regard que ces gens ont sur notre enseignement et celui qu'on peut avoir sur leur façon d'enseigner.
Brièvement, Bruno Modicain, Emmanuel Picard, et puis ensuite on passera peut-être, oui, la parole à la salle avant d'écouter l'intervention de Philippe Joutard. Allez-y, Bruno Modicain.
Merci, Emmanuel Laurentin. Très rapidement sur la question du temps, je crois qu'il faut qu'à un moment donné, un certain nombre de choses soient dites, y compris au niveau technique. Parce que là aussi, on a examiné avec beaucoup d'attention les dispositifs de ces fameux enseignements pratiques interdisciplinaires et comment ils allaient être intégrés dans la dotation globale horaire d'un collège. On a pris des exemples, collège 500, collège 750, collège 1200. Et on s'est mis dans la situation du chef d'établissement, puisque dans le cadre de l'autonomie des établissements publics locaux d'enseignement, on a regardé concrètement ce que cela signifiait. Alors ça signifie énormément de choses pour l'ensemble des disciplines. On dit, bah, effectivement, il y a de l'autonomie. Mais ce n'est pas comme ça que cela marche. Parce qu'en réalité, sur les 20% horaires, que va faire le chef d'établissement? Il va se servir de cette souplesse, de cette huile qu'il va mettre dans les rouages pour jouer et mettre en place une variable d'ajustement. On a fait plusieurs simulations et on est toujours retombé sur nos pieds. Pour les chefs d'établissement, c'est une véritable manne de ce point de vue-là. Après, il va gérer les rapports de force locaux entre ses équipes enseignantes. Alors bon, on peut espérer que ça va se passer comme cela de façon positive pour l'histoire et la géographie, mais on n'en sait absolument rien et on n'a aucune garantie. Alors, une fois de plus, sur la question des EPI, la plus grande circonscription à mon
circonscription, je me projette
sur des élections qui ont été annulées, voilà, dans mon territoire.
C'est sûrement ça, ouais.
Voilà. Donc, la plus grande circonscription s'impose. La question du temps, je reviendrai là-dessus. Il est évident qu'on ne peut pas aller au-delà des contraintes horaires qui sont les nôtres. Et effectivement, c'est vrai que je suis absolument d'accord avec tout ce qu'ont dit mes collègues, hein, sur la question du chronomètre. Que par contre, on peut essayer de limiter les dégâts en utilisant de façon positive, de façon créative, de façon, désolé de dire un gros mot, innovante de ce point de vue-là, les moyens numériques dès lors que l'institution fournira, parce que ce sera quand même le fond du problème, fournira aux maîtres, à tous les sens du terme, les moyens à la fois en termes d'infrastructure, en termes de logistique et bien entendu en termes de formation sur les contenus et sur les savoir-faire.
Merci Bruno Modicain, Emmanuel Picard, et puis Emmanuel Picard, vous voulez intervenir?
Oui, alors juste, je vais essayer d'être très bref pour qu'effectivement on puisse laisser du temps à la discussion. Moi, j'avoue que dans les programmes, ce qui m'a le plus intéressé quand je les ai lus, c'est la partie concernant les compétences. Voilà, c'est là où j'ai trouvé qu'il y avait des choses extrêmement intéressantes et novatrices, et j'aimerais bien que ce soit autour de ça qu'en fait on puisse être amené à réfléchir. Parce qu'encore une fois, les contenus, de toute façon, on ne les verra pas tous. Et puis, je pense que c'est compliqué. Enfin, on pourrait reparler une journée entière de ce que c'est qu'un contenu.
Les compétences, pour les gens qui ne sont pas dans le milieu de l'éducation.
Les compétences, c'est donc un ensemble de savoir-faire que les élèves sont censés acquérir au terme de la formation d'un cycle. Des savoir-faire analytiques, critiques, production, d'écrit, d'oral, de compréhension, voilà, qui sont vraiment des compétences très importantes et qui renvoient au fait que c'est ça qui est central de donner à nos élèves et à nos étudiants d'ailleurs. Je pense qu'il ne faut pas non plus fantasmer, mais dans l'enseignement supérieur, on est aussi sur de la production de compétences, peut-être pas pour les agrégatifs qui, eux, avalent du contenu, mais pour tous nos autres étudiants, nous travaillons plutôt sur les compétences que sur les contenus. En fait, les contenus, ils vont aller les chercher. Ils auront les moyens de les trouver, de les comprendre et de les critiquer grâce aux compétences.
Vous voulez dire que le débat tel qu'il s'est amorcé dans la presse entre éditorialistes, intellectuels, etc., n'était pas bien porté? C'est pas sur la question des contenus qu'il aurait fallu qu'il porte, mais sur la question des compétences, selon vous? Ou est-ce qu'il était légitime tout de même de s'interroger sur la question des contenus, Emmanuel Picard.
Il est toujours légitime de s'intéresser à la question des contenus, ne serait-ce que parce que ça informe les historiens de l'état des débats dans une société.
Vous faites de l'archive. Là,
voilà, donc c'est très très important de s'intéresser. Et je pense qu'il y a aussi des vraies réflexions sur des décisions collectives à ce qu'un contenu soit plus important qu'un autre. Mm-hmm. Voilà, ça c'est un choix de la nation d'une certaine façon, et nous sommes des fonctionnaires, donc on peut penser qu'il y a des logiques de choix national, pourquoi pas, qui doivent être explicités de façon très claire, par contre, et qui ne sont peut-être pas toujours. Et du coup, ça nourrit ces polémiques. Mais je trouve qu'en fait, c'est plus intéressant, encore une fois, de travailler sur cette notion de compétence. Alors, juste, je voulais juste rajouter un truc tout à l'heure. Vous avez dit que vous étiez d'accord avec moi sur le fait qu'il fallait faire de l'histoire politique. Et en fait, moi, je suis plutôt partisane de l'histoire sociale, le politique étant une sous-dimension du social.
Ouais, quand vous parlez des rois de France, vous êtes plutôt dans le politique.
Oui, mais je parle de la nature du pouvoir, et je pense que la nature du pouvoir est sociale.
La nature du pouvoir, elle est aussi politique.
Bon, ça peut se discuter. Le fait est que, en l'occurrence, moi, je sais que j'avais découvert une expérience très intéressante, dont je pense que peut-être le CSP a, enfin, je suis même sûre qu'il a connaissance, qui sont les plans d'éducation qu'il peut y avoir en Suisse romande ou en Belgique, et qui sont beaucoup moins prescriptifs en termes de contenu, mais beaucoup plus clairs en termes de connaissances. Donc il y a une liste de compétences, il y a une liste de compétences, d'objectifs, de formation, et on dit, vous ferez ça en étudiant le Moyen-Âge. Voilà. Et donc, libre à l'enseignant de choisir ce qui, dans le Moyen-Âge, va lui sembler, pour une année X et une classe Y, le plus pertinent.
Mais ça serait vraiment rompre avec une très longue tradition française, en l'occurrence.
Oui, ce serait une vraie innovation.
Un dernier mot, Yannis Roder, sur...
Oui, non, juste sur l'histoire de, enfin, la question de la compétence et du contenu. Moi, je pense que les deux sont liés, les deux vont ensemble. Ça me semble une évidence. Et il s'agit pas d'opposer compétence à contenu. On peut toujours discuter sur le contenu. On peut aussi discuter sur les compétences. Voilà, simplement, je crois pas que, mais je crois pas que ce soit votre intention, hein. Mais, voilà, je crois pas que nous ayons à opposer l'un et l'autre. Les deux sont liés, intimement liés.
Merci. On garde, allez, un gros quart d'heure de questions de la salle. Voilà, trop de mains se lèvent. Monsieur, puisque je l'ai vu le premier, et ensuite on va essayer de donner la parole à tous ceux ou toutes celles qui veulent parler. Mais alors, s'il vous plaît, posez des questions. J'ai monsieur avec la chemise bleue, le bras levé. Mademoiselle, s'il vous plaît, c'est le monsieur là avec la chemise bleue. Allez, avancez, voilà. Allez-y. Et puis ensuite, au petit bonheur la chance, en espérant que tout le monde, enfin personne ne sera trop frustré.
Alors, je voulais remercier Madame Picard qui aborde enfin l'autre moitié des programmes d'histoire et de géographie. Quand on lit les programmes du CSP, la grosse partie quand même porte sur les compétences qui, je rappelle, sont à la fois des savoirs et des savoir-faire. Il y a les deux qui sont bien intimement mêlés et ne s'excluent pas. Or, c'est quand même la part essentielle aujourd'hui de la formation intellectuelle de nos élèves et qu'on ne peut pas nier. À l'heure d'aujourd'hui, à l'heure d'Internet, où l'accès à la connaissance est massive, le rapport à la connaissance a forcément changé. Et si on ne forme pas intellectuellement nos élèves avec des compétences et des savoir-faire, justement, on perd notre légitimité. Dominique Rollin, dans une interview, avait dit « Enseignants, si vous restez dans la simple transmission de connaissances, vous allez disparaître. » Je suis persuadé que si nous, enseignants d'histoire-géographie, nous restons dans la simple transmission de connaissances, ce qui n'est pas la pratique majoritaire, mais quand même, on perd une grande partie de notre légitimité face à l'outil numérique.
Parce qu'il y a une concurrence, selon vous, justement, dans cette transmission de connaissances, comme on l'a dit à différents moments de cette émission.
Alors, je pense qu'on est en fait dans une transition par rapport à notre matière. Pendant très longtemps, on a été quand même beaucoup, énormément, dans la transmission de connaissances. L'arrivée du travail par compétences est difficile, parce que comment avoir un gros programme avec beaucoup de choses et des savoir-faire? Et on a parlé du temps, et c'est vraiment dans ces savoir-faire qu'on va, à mon avis, former vraiment nos élèves.
Alors faisons simple, passez le micro à votre voisine qui lève la main, comme ça sera plus rapide.
Bonjour, j'attendais cette table ronde avec impatience, parce que justement, on y a parlé enfin des élèves, on en avait très peu parlé jusqu'à présent, et je voudrais quand même souligner que dans ces programmes qui nous offrent enfin des choix, qui nous font enfin confiance en tant que professionnels de l'éducation, en tant que professionnels de nos disciplines, on met d'abord en avant la possibilité pour l'enfant, l'élève, de s'approprier des savoirs, des compétences, des connaissances globales, et non pas le fait que le professeur, monsieur
Roder,
oui, merci, l'a bien souligné, soit obsédé par l'hypothèse de ne pas terminer ce programme, trop pléthorique jusqu'à présent.
Merci. Qui voulait intervenir? Mademoiselle, allez-y.
Oui, bonjour. J'avais une question par rapport à l'intitulé même de cette table ronde, parce qu'il s'agit ici de passer de l'histoire programmée à l'histoire enseignée. Mais dans le fond, ce qui ressort, c'est qu'on s'intéresse tous surtout à l'histoire récoltée, celle que les élèves vont vraiment retenir. Et de ce point de vue-là, je trouve que dans les programmes, même si de ci de là, on a fait des transformations, on a collé certaines parties avec d'autres, mine de rien, ça va rester assez lourd, peut-être pas aux mêmes endroits. Pour ma part, j'ai des inquiétudes pour le programme de quatrième qui s'annonce extrêmement chargé. Et donc tout ça m'amène à la question suivante, c'est par rapport à l'évaluation proprement dite. Quel apport ces programmes nouveaux vont-ils donner, vont-ils produire par rapport aux anciens? Et dans le cadre du brevet, comment réussir à motiver des élèves pour les préparer à des épreuves sur des chapitres qui seraient par exemple facultatifs? Est-ce à dire que dans le brevet des collèges, il y aurait ces chapitres-là ne seraient pas sujets d'épreuve? Enfin, oui, des questions comme ça concrètes qui, à mon avis, seront posées par les élèves. Est-ce que ça veut dire que ça, il faut l'apprendre ou pas? Donc voilà, si vous pouvez me renseigner, ce serait gentil.
Je ne sais pas si quiconque à cette table est capable de vous renseigner sur ce point-là. Il faudrait peut-être poser la question aux gens du Conseil supérieur des programmes, s'ils ont pensé, je ne sais pas. Madame, on garde votre question en tous les cas, mademoiselle. Madame, puis madame devant, allez-y.
Donc, Nathalie Malabre, donc membre du groupe de travail cycle 3, donc, et co-rédactrice des programmes d'histoire et de géographie. Donc, je voudrais évoquer le cahier des charges du CSP pour expliquer que nous avions un certain nombre de pages et que ces programmes d'histoire géographie sur 3 ans sont écrits en 5 pages et un peu plus, et que donc nous avons eu une écriture collaborative et même collective à 4, et que nous avons pesé chaque mot. Donc il n'y a pas forcément des redondances, mais par exemple le terme de territoire est employé 5 fois dans le programme de géographie du cycle 3.
Ça c'est une pierre dans le jardin de Dominique Borne.
Et puis le terme de récit, il y est bien, il est dans le préambule du programme d'histoire. Madame la ministre l'a elle-même cité, puisque l'élève doit comprendre que les récits de l'histoire, et récits c'est au pluriel, et nous avons bien pesé ce pluriel. Les récits de l'histoire sont constamment alimentés par de nouvelles découvertes archéologiques et scientifiques et des lectures renouvelées du passé. Donc, le temps des rois, donc il y a bien les arts et le patrimoine, puisque François Ier est un protecteur des arts et des lettres à la Renaissance, et que Louis XIV, nous le plaçons bien entendu à Versailles.
Ça, c'est pour quel cycle, ça ?
Cycle 3.
D'accord.
Et que finalement, cette étude de la monarchie capétienne se centre sur le pouvoir royal, ses permanences, sur la construction territoriale du Royaume de France, et qu'elle permet la découverte d'éléments essentiels du patrimoine français et d'interroger les liens du Royaume de France avec d'autres acteurs et d'autres espaces. Je ne fais que lire ce que nous avons déjà écrit, mais nous avons bien essayé de construire quelques grands repères historiques français et de connecter cet espace national à géométrie variable à d'autres territoires. Et cela est fait aussi pour le programme de 6e.
Merci, madame, de cette précision. Véronique Servin, vous vouliez ajouter quelque chose? Madame va prendre la parole ensuite. Véronique Servin.
Je voulais revenir sur la question qui a été posée concernant le brevet. Donc, j'ai des informations particulières à livrer à l'Assemblée, du tout.
Ah bon?
Mais,
c'est dommage.
Effectivement, ça me semble un point central, et ça, c'est un point qui se connecte avec ce dont parlait Emmanuel tout à l'heure, à savoir les compétences qui sont énoncées en début de programme du CSP. Il me semble que nous sommes aujourd'hui dans une épreuve du brevet qui est un non-sens intellectuel total.
Visiblement,
voilà, pour dire les choses concrètement.
Vous n'êtes pas toute seule à le penser, vu les sourires que je vois.
Il me semble que le point positif qui émerge à partir de la lecture de ces compétences, c'est qu'en aucun cas, le nouveau brevet ne va pouvoir être d'une telle pauvreté avec un énoncé de compétences comme celui qui est dans les programmes. Il y a une très nette élévation des attendus,
c'est ça,
des raisonnements.
Une exigence, vous voulez, supplémentaire. Donc, ça n'est pas le niveau baisse, mais c'est le niveau monte, c'est ce que vous voulez dire. Madame.
Oui, alors, on a parlé effectivement des programmes, de l'histoire, l'histoire programmée, l'histoire enseignée des élèves, mais qui pense aux profs? Moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit...
On aura parlé des profs.
Non, attendez. Est-ce qu'on est encore en état de calculer à cette heure-ci de la journée? Franck Collard a évoqué le début de sa carrière où il avait 4 heures. Bon, plus une demi-heure d'éducation civique, 4 heures et demie. Un certifié qui doit 18 heures. À l'époque, 4 classes. On est bien d'accord. Bon. Là, actuellement, on est où? 2 heures et demie. L'éducation civique morale n'est pas dédiée aux profs d'histoire. 2 heures et demie pour 18 heures, le prof a 7 classes. Bon. Je sais pas si on se pose le problème de la masse de travail des collègues. Bon. Avec des nouveautés, de l'interdisciplinarité, etc., etc. Bon. C'est la galère pour nos jeunes collègues. Et je tiens à le souligner parce que c'est véritablement hyper difficile et des conditions de vie qui sont dégradées. Voilà.
Merci madame. Laurence de Coq, puis derrière, et j'ai bien vu les deux mains qui se sont levées, vous inquiétez pas. On va vous passer le micro, Laurence de Coq devant, et puis ensuite madame derrière. Voilà. Oui, je vous ai vu madame, vous inquiétez pas.
Juste très très rapidement, moi je suis très contente de voir que finalement nous sommes aussi tombés sur un autre accord. Qui est qu'il va falloir prendre à bras le corps la question de la réflexion sur les pratiques, et notamment sur les pratiques pédagogiques, parce que la question de l'impuissance que tu ressens, Yannis, et que moi aussi, depuis 17 ans, parfois dans un autre quartier populaire, je peux ressentir par rapport à des enfants qui sont, c'est vrai, en souffrance, mais je crois qu'elle ne se résout pas uniquement par ni du temps, même si c'est important, ni un choix de contenu plus subtil qu'un autre, même si c'est important aussi, ça se résout aussi par une réflexion sur la pédagogie. Donc j'aimerais que peut-être ces programmes soient aussi l'occasion d'une véritable réhabilitation en France de ce mot qui est très souvent disqualifié, y compris par des associations de spécialistes.
Merci. Une question, madame, là-bas. Oui, non, allez, on va vous faire passer le micro. Madame, vous l'avez, allez-y.
Christine Galopo d'Olmeda, je suis pour le SGEN CFDT. Je voudrais être très concrète. Un EPI, qu'est-ce que c'est? On met 2 profs, un prof de lettres, par exemple, un prof d'histoire, c'est quelque chose que je suis en train de faire. On fait visiter, par exemple, aux élèves un monument. Et là, mes élèves, on est dans la Marne, on a eu la Première Guerre mondiale. Mes élèves sont en train d'élaborer un livret de visiteurs pour le jeune visiteur. Ils ont visité, ils ont pris des photos, ils ont fait des recherches, ils écrivent. Et j'y envisage aussi de leur faire créer des podcasts pour ceux qui ont du mal à écrire. Là, ils sont dans la réflexion, dans l'étude. Ça faut prendre un moment d'un EPI. On travaille avec le prof de lettres, le prof d'histoire géo, on travaille le numérique, on travaille toutes les compétences. Et là, je pense que les élèves sont acteurs et ils se rendront compte, ils se rappelleront de ce qu'ils auront étudié sur la Première Guerre mondiale. Voilà quelque chose de très concret qui, jusqu'à aujourd'hui, de cet après-midi, j'ai pas eu beaucoup, beaucoup de choses concrètes sur la classe.
Oui, Emmanuel Picard.
Juste un mot pour vous remercier d'avoir utilisé ce terme de rendre les élèves acteurs. Parce que je pense que c'est effectivement, c'est un mot que j'aurais aimé ne pas avoir oublié dans ce que j'ai dit tout à l'heure. Et c'est très important et ça peut être l'occasion de les faire produire, c'est-à-dire de participer et de montrer que le fait de maîtriser des contenus et des compétences, c'est aussi se mettre en situation de participer à une discussion qui les dépasse en produisant quelque chose et en étant réellement acteurs de leur vie et de leur savoir.
Pourquoi ce sourire Goguenard,
Non, c'est pas du tout Goguenard. Je suis très content d'entendre ma voisine dire qu'il faut que les élèves produisent. Je l'ai dit tout à l'heure et je vous remercie de l'exemple que vous donnez, qui est un exemple. Alors, il y a beaucoup d'exemples, on pourrait en donner beaucoup, mais effectivement, je suis convaincu que les élèves doivent être acteurs. Oui.
Merci. Madame, allez-y.
Donc je me représente peut-être à Alice Cardozo du SNES. Nous, on s'est posé quand même beaucoup de questions sur ces programmes qui posent tant de problèmes. D'abord, qui évalue à un moment les programmes et sont-ils évalués? Y a-t-il un bilan qui est fait? Et est-ce qu'il y a un bilan qui a été fait avant, effectivement, de les renouveler? Et bilan fait auprès, notamment, de ceux qui sont chargés de les enseigner, par exemple. D'autre part, je voulais savoir si vous avez évoqué, mais je crois pas, quand même une question cruciale qui est celle de programmes qui doivent tout couvrir si on veut contenter à peu près tout le monde et calmer les furies fureur médiatique éventuellement, mais le problème c'est qu'on doit avoir des programmes qui couvrent tout de la sixième à la troisième. Il se trouve quand même qu'une majorité des élèves, alors je sais, pas tous, mais une majorité, continue à faire de l'histoire géo après. Et pourquoi ces programmes de collège sont le décalque quasi complet des programmes que quand même beaucoup d'élèves vont refaire au lycée. Et si on regarde les programmes de géographie, c'est là particulièrement le cas. Donc est-ce qu'on pourrait pas aussi sortir des impasses en pensant des programmes sur l'ensemble de la scolarité et de la scolarité obligatoire? Quant au XXe siècle, c'est quand même un vrai problème, hein, sinon on ne s'en sort pas. Ce XXe siècle en troisième, c'est vraiment intangible, essayer de retirer quelque chose, vous allez voir. Et j'avais une question pour la PAG, parce que j'ai pas bien compris. Est-ce que visiblement vous n'êtes pas favorable aux questions au choix, mais est-ce que du coup vous souhaitez que les questions qui sont pour l'instant au choix passent en questions obligatoires, ou est-ce que vous êtes prêt à les supprimer? Parce qu'en questions obligatoires, ça fait 14 questions, 5 heures par question, évaluation comprise et correction. Voilà, donc
merci.
On revient sur le même problème.
Jean-Marc Février, Bruno Modica, très brièvement, une dernière question de monsieur, et on s'arrêtera là avant de donner la parole à Philippe Joutard, parce qu'il faut tenir le chronomètre.
Double réponse. Je me suis fait l'écho des enquêtes, des remontées de nos collègues. Ce ne sont pas tous nos collègues, mais il y a des enquêtes qui ont été faites dans plusieurs régionales, et on a déjà beaucoup de choses. Et tout ça est en cours. Donc ce que je vous ai indiqué, ce sont un certain nombre de ressentis, en vous disant ça c'est majoritaire, ça fait coincer sur tel ou tel problème. Le fait que, ça je crois pas qu'on l'ait dit, et je crois pas que ça a été dit dans la journée, le fait de savoir si on change tous les programmes la même année, ce qui pose par exemple le problème de la Première Guerre mondiale placée à la fin de la quatrième dans ces nouveaux programmes. Donc est-ce que ça signifierait une année sacrifiée pour la Première Guerre mondiale au moment, je ne sais pas, hein, au moment où je crois 900 classes ont été labellisées centenaires. Bon, je vous donne un certain nombre d'éléments. Maintenant, je n'ai pas à parler en mon nom. Nous allons avoir des commissions et nous allons avoir un comité national et une assemblée générale dimanche. Et après le travail de ces commissions, il y a des positions qui seront adoptées. Il me semble quand même, je parle en mon nom et simplement en mon nom, il me semble quand même que semble se dégager une très large majorité. On verra ce qui en sera dit et la synthèse qui en sera faite. Mais pour l'instant, dans les remontées, dans les commissions et dans les responsables de commissions collèges, puisqu'il y a beaucoup de travail qui a été fait dans les dernières semaines, sur le fait que ce flottement dans la définition des enseignements obligatoires ou au choix de l'enseignant pose problème. Et qu'un certain nombre de nos collègues disent qu'il vaut mieux aller vers de l'obligatoire. À mon avis, et ce n'est que moi qui parle, garder effectivement autant de thèmes n'est pas possible, bien sûr, pour les raisons de moyens en temps, pour les raisons de faisabilité de tout ça, puis simplement parce qu'il faut s'adosser à ce que sont les classes pour qu'elles s'approprient. Bon, c'est ce qu'a dit notre collègue. Là, on est dans quelque chose qui n'est pas tenable.
Merci Jean-Marc Février. Très brièvement, Bruno Monica.
Encore une fois, très rapidement, pour répondre justement à la question d'Alice Cardozo sur justement la limite, c'est-à-dire cette espèce de décalcomanie qui est faite pour les programmes de géographie du collège que l'on retrouve en histoire de la même façon, avec les effets d'ailleurs qui sont tout à fait pervers. Notamment en ce qui concerne le développement durable. Moi, j'avoue que quand je dois venir devant mes classes pour parler du développement durable, alors que les élèves ont dû se le cogner, passez-moi le mot, à tous les étages de leur scolarité, j'ai un peu l'impression d'être dans la position, je parle pour un clin d'œil à Christian Grataloup, j'ai un peu l'impression d'être le matador qui rentre dans l'arène, parce que les élèves commencent littéralement à en avoir un petit peu marre du développement durable à tous les étages, parce que justement il y a cet effet de lassitude et de répétition. Donc c'est vrai que peut-être il y aurait des pistes à explorer qui nous permettraient à ce moment-là de consacrer plus de moyens. Simplement, juste sur les EPI, à ce moment-là, si je reprends l'exemple qui a été donné sur qu'est-ce qu'un EPI, c'est ce que nous faisons déjà, très bien, alors c'est pas la peine de mettre une usine à gaz en place avec une justification administrative. Faisons confiance aux gens et laissons un peu plus de liberté, puisqu'on en parle dans ces programmes et dans cette réforme du
collège. Merci Bruno Modica. Décidément, monsieur, vous êtes destiné à poser la dernière question de chaque table ronde. Allez-y.
Alors, très rapidement.
Vraiment très rapidement.
D'une part, départ sur l'interdisciplinarité. Les programmes d'histoire sont effectivement pas seuls dans l'ensemble des programmes. Actuellement, on a des programmes de français qui fonctionnent pour une part de façon chronologique en fonction des programmes d'histoire. Et ça, dans les projets actuels, c'est quelque chose qui ne réapparaît pas. Je pense que c'est un vrai souci de ce point de vue-là pour justement le fait de se dire on favorise l'interdisciplinarité. Là, à notre avis, on perd justement des choses de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'il y a une interdisciplinarité de fait, tout simplement par l'existence conjointe des deux programmes, qu'on pourrait perdre. Deuxième chose sur la question du temps, je pense qu'on tient, j'allais dire, deux discours conjoints qui, à un moment, ne vont pas ensemble. D'une part, dire il y a des thèmes qui sont facultatifs, ce qui permet d'alléger le programme parce que les professeurs n'ont pas le temps de finir, etc. Et d'autre part, de dire « Mais rassurez-vous, on fait confiance aux enseignants, ce qui est facultatif, ils le feront quand même, car on ne peut pas traiter de la question sans, bien entendu, étudier les lumières, etc. et tout ça. » À un moment, ça va être les enseignants à qui on va demander des comptes sur le fait qu'ils n'ont pas réussi à faire quelque chose qui est finalement présenté dès le départ comme impossible.
Merci monsieur, merci à tous et merci à toutes. Merci au CSP de nous avoir d'avoir organisé toute cette rencontre. Je vais donner la parole tout de suite à Philippe Joutard. Ne vous inquiétez pas, nous ne terminons pas cette discussion, mais simplement il s'agit pour nous de clore cette troisième table ronde. Merci au rectorat de Paris de nous avoir accueillis et merci à l'équipe technique composée de Stéphane Foulon, d'Hervé Dubreuil, de Loïc Duros et de Loïc Duros et de Sandrine Bréchaud avec une réalisation d'Anne Fleury. La parole est à vous, Philippe Joutard, pour la conclusion de cette journée.